Transistor.
À l'école, l'élève doit être absolument protégé.
Transistor. Web.
Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes d'Indifférence, l'émission qui traite des handicaps et différences invisibles à travers le vécu d'étudiantes et d'étudiants. Dans le langage courant, quand on parle de handicap, c'est souvent l'image d'une personne en fauteuil roulant qui nous vient à l'esprit. Dans la réalité, 80% des handicaps sont ce qu'on appelle des handicaps invisibles. Autrement dit, des handicaps qui ne se lisent pas sur le visage, qui ne se devinent pas au premier regard. Et c'est justement de ces handicaps-là dont on va parler. Aujourd'hui, on accueille Justine, en master de philosophie à l'ENS de Lyon, et qui a été diagnostiquée très récemment d'un trouble anxieux généralisé. Bonjour Justine.
Bonjour.
Alors, d'après la CIM-11, qui est la version la plus récente de la classification internationale des maladies, le trouble anxieux, c'est un trouble persistant, qui ne survient pas exclusivement, ni même de façon préférentielle dans une situation déterminée. C'est pour ça qu'on se dit souvent que l'anxiété est flottante. Les symptômes essentiels sont variables, mais le patient se plaint de nervosité permanente, de tremblements, de tensions musculaires, de transpiration, d'un sentiment de tête vide, de palpitations, d'étourdissement et de gêne épigastrique. Par ailleurs, le sujet a souvent peur que lui-même ou l'un de ses proches tombe malade ou ait un accident. Donc là, ce que je viens de dire, c'est la définition médicale, la définition scientifique. Toi, comment tu t'écrirais le trouble anxieux avec tes mots?
Alors, c'est un peu compliqué pour moi d'avoir du recul sur ce trouble parce que, comme tu l'as dit, ça fait seulement une semaine que j'ai un diagnostic précis. Avant, je pensais que j'avais un trouble dépressif, anxio-dépressif, parce que j'ai souffert d'une dépression en mars 2020. Et là, en ce moment, je suis un peu en perte de rechute. Et j'avais pas forcément l'idée que l'anxiété pouvait être un trouble général. J'avais des crises d'angoisse, je fais des crises d'angoisse depuis des années et des années. Et donc, pour moi, les crises d'angoisse, c'était quelque chose que tout le monde a, plus ou moins, autour de moi. Tout le monde a eu des crises d'angoisse avec divers symptômes. Et donc, ça ne me paraissait pas être quelque chose d'anormal. C'est donc très récemment que j'ai compris que c'était tout le système, mon système de pensée, qui était basé sur l'anxiété, et que c'était l'anxiété qui me créait tous mes autres problèmes, y compris la dépression, y compris, ce que tu as dit, tous les symptômes physiques que avant j'identifiais très différemment. Je suis allée des nombres incalculables de fois chez l'ostéo en me plaignant de douleurs cervicales, en ayant très mal au dos, partout, à la mâchoire, je fais du bruxisme, c'est-à-dire que pendant la nuit, ma mâchoire se crispe et je grince des dents. Et donc après, j'avais super mal à la mâchoire pendant la journée. Et tout ça, je pensais que c'était des problèmes individuels. Et le diagnostic du trouble anxieux généralisé m'a permis de comprendre que tout était lié à l'anxiété, que c'était ça la source du problème, y compris ce qui pouvait avoir rien à voir, juste avoir mal au cou. En fait, c'était parce que j'étais trop anxieuse pendant la journée. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir un recul général.
Et même si tu dis qu'autour de toi, les gens avaient plutôt pas mal de crises d'angoisse et étaient quand même un peu dans des cas similaires, est-ce que tu as l'impression que quand même tu te sentais un peu différente? Et j'aurais une deuxième question un peu en lien, c'est là, même si, comme tu l'as dit, le diagnostic est très récent puisqu'il date d'une semaine, est-ce que déjà tu considères qu'il y a des termes qui te correspondent plus? Par exemple, le terme de handicap, de maladie, de trouble, ou est-ce que... ça ne parle pas forcément encore.
Le terme de handicap, ça me parle quand même, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va, pendant toute ma vie, me poser problème. Et ce n'est pas une maladie pour moi, parce que je ne vais pas guérir du trouble anxieux généralisé. Parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment mon système, c'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne sur un mode anxieux. Et je sais que je vais pouvoir calmer l'anxiété et vivre avec, on va dire. Mais je ne vais pas pouvoir la supprimer totalement de ma manière de fonctionner. Donc un trouble ou un handicap, ça me correspond bien parce que un handicap, c'est quelque chose qu'on a avec soi et que c'est quelque chose avec lequel on va devoir vivre et qui à la longue peut devenir limite un allié, quelque chose qui fait partie de notre personnalité mais qui n'est plus considéré comme une maladie qu'on ne déteste plus au quotidien. Et moi, les crises d'angoisse, je vis avec depuis plusieurs années. À l'époque, elles étaient beaucoup plus effrayantes pour moi. Aujourd'hui, je vis avec et je sais comment les maîtriser, les dompter. Il y a des fois où ça devient insupportable parce que l'anxiété est trop généralisée, justement. Mais il y a des fois où l'anxiété est presque en sourdine et je ne fais pas de crise pendant plusieurs mois. Et donc, ça reste un handicap parce que je sais qu'à tout moment, elle pourrait ressurgir. Et donc, il faut que je prenne ça en compte dans ma vie, dans mon choix de métier, dans mon quotidien. Mais je ne dirais pas que ça soit une... je dirais pas que c'est une maladie. En revanche, la dépression, c'est une maladie parce que c'est une sorte de conséquence de l'anxiété. Et donc, quand je suis en dépression, ça veut dire que mon cerveau en a trop vécu. Et donc, il est en quelque sorte tombé malade à cause de ce degré de stress trop élevé. Je suis tombée malade, donc je dois me remettre de la dépression, prendre des médicaments. Et une fois que je suis remise de la dépression, on redevient dans l'ordre du trouble ou du handicap.
Et peut-être pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais expliquer, toi, comment, à quoi ressemblent tes crises d'angoisse ? Est-ce que c'est des larmes ? Est-ce que c'est de la difficulté à respirer ?
Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant parce qu'autour de moi, les personnes qui ont des crises d'angoisse ont plein de symptômes différents. Moi, j'ai vécu plusieurs symptômes. On va dire que le plus important, c'est l'hyperventilation, c'est-à-dire de respirer beaucoup trop et donc d'être en suroxygénation, ce qui peut amener à des vertiges, la tête qui tourne et surtout la sensation que... au bout d'un moment, le cœur va lâcher parce qu'on respire trop. Et cette impossibilité de s'arrêter, limite, j'ai l'impression que je m'étouffe, comme si j'étais en train de me noyer. J'ai aussi eu parfois juste des crises de larmes, un peu incontrôlables, mais ça, c'était plutôt dans le cadre de dépression, comme je disais. Et sinon, ça m'est déjà arrivé d'avoir des crises d'angoisse qui étaient avoir très mal au cœur, comme une pointe au cœur, parce que voilà, c'était... en fait, c'est comme si d'un seul coup, j'étais soumise à un danger. J'ai une dose d'adrénaline très forte qui vient et pourtant il n'y a pas de cause directe de ça. Il n'y a pas de danger immédiat. Et pourtant mon corps réagit comme si je devais prendre la fuite ou s'il y avait quelque chose qui me menaçait là maintenant tout de suite, un agresseur en face de moi qui voulait me tuer ou quelque chose comme ça. Et parfois j'ai même l'impression de fixer un point dans la pièce comme s'il y avait une menace que je pouvais voir, que je pouvais ressentir mais que je ne pouvais pas décrire ni identifier. Et donc c'est vraiment terrifiant parce que notre corps réagit sans qu'on sache vraiment pourquoi à une menace invisible. Et c'est ça que j'appelle l'anxiété. En général, c'est cette menace qui est tout le temps là et qui peut parfois devenir insupportable.
Et donc là, après des années de crise d'angoisse, t'as enfin un diagnostic. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que t'as été soulagée ? Est-ce que t'as été contente ? Est-ce que t'as été, je sais pas, en colère ? Par quoi t'es passée comme sentiment ?
Alors en fait, j'étais allée voir un psychiatre pour ce diagnostic à la base pour savoir si j'étais bipolaire ou si j'avais un trouble borderline ou un autre trouble que je connaissais pas encore. Parce que j'avais vécu des épisodes où j'avais l'impression d'être très euphorique et des épisodes où j'étais très déprimée. Et donc je m'étais dit, c'est bizarre quand même ce côté cyclique. Et donc j'étais inquiète et comme j'ai le trouble anxieux généralisé, j'étais inquiète d'avoir des maladies. Je suis en permanence inquiète d'avoir des maladies. Le cancer, c'est une source d'inquiétude pour moi, mais aussi toutes les maladies psychiatriques, psychologiques. Et donc, je m'étais un peu mise en tête que, si ça se trouve, j'avais un trouble bipolaire. Donc, quand le psychiatre m'a dit que j'avais pas de trouble bipolaire parce que j'avais pas de manie, j'avais pas de phase maniaque, mais j'avais seulement de l'anxiété, et que c'était cette anxiété qui faisait que j'étais sous pression pendant un certain temps, puis d'un seul coup, j'étais en dépression parce que je m'étais trop mise sous pression, bah en fait ça m'a soulagée. J'étais contente d'avoir ce trouble anxieux généralisé parce que d'un côté c'était mieux que d'avoir un autre trouble que je connaissais pas comme la bipolarité et qui me faisait très peur. La bipolarité ça me paraissait, j'ai vu plusieurs films sur ça et ça me paraissait être pour le coup une maladie, je vois ça comme une maladie très handicapante et très difficile à vivre, autant pour soi que pour les proches, alors que le trouble anxieux généralisé me paraît être une particularité, un trouble que je peux apprivoiser parce que finalement j'ai l'impression de m'y connaître entre guillemets en crise d'angoisse et gérer mon anxiété, je pense que c'est quelque chose que je peux réussir à faire avec les années, avec les mois, avec ma psychologue. Donc ça m'a rassurée en fait.
Du coup là ce que tu dis c'est que toi tu t'es posé la question à toi-même si t'étais passé par d'autres, enfin si t'avais d'autres troubles en fait, tu parlais de la bipolarité et tout ça. Est-ce que ça a été compliqué d'obtenir ce rendez-vous et d'avoir ce diagnostic ? Parce que souvent, c'est pas forcément évident d'avoir un rendez-vous avec un psychiatre et d'avoir, dès le premier rendez-vous ou dès les premiers, le bon diagnostic. Est-ce que, d'une part, t'es passé par d'autres diagnostics avant ? Et est-ce que, de manière générale, t'as un peu galéré à trouver des bons psychiatres, des bons psychologues ?
Oui, ça a été difficile parce que la première fois que je suis allée voir un psychiatre, c'était en mars 2020, parce que j'avais vécu des crises d'angoisse très très fortes. Et donc je m'étais dit que j'étais en dépression. Donc je suis allée voir un psychiatre en lui demandant des médicaments, des antidépresseurs. Et en effet, il m'a diagnostiqué en dépression sévère. Et à ce moment-là, je lui avais parlé de mes crises d'angoisse et je lui avais raconté ce que j'avais vécu. Et lui n'avait pas du tout parlé du trouble anxieux généralisé. Il avait parlé d'un burn-out. Et donc, il avait dit « Vous êtes en dépression sévère à cause d'un burn-out, à cause de vos études, de la prépa, etc. » Et donc, voilà, il m'avait donné des médicaments, pas d'anxiolytiques, seulement des antidépresseurs. Et j'avais vécu ma vie et c'était allé mieux. Mais en fait, les crises d'angoisse sont revenues parce que c'était pas vraiment le bon diagnostic. Et que même s'il avait mis le doigt sur la dépression, il n'avait pas mis le doigt sur la cause principale qui était l'anxiété. Et je pense que ce qui avait rendu difficile le diagnostic, c'est que je compense énormément mon anxiété, qui est ma nature en fait, ma nature très anxieuse. Je la compense en ayant un air très calme, en présentant toujours les choses avec détachement. À tel point que personne ne soupçonnait que je faisais de crises d'angoisse quand j'étais en prépa. Tous mes profs pensaient que j'étais la personne la plus relaxée de la classe et que j'avais aucun problème avec les oraux de l'ENS et que j'allais assurer parce que j'étais pas du tout quelqu'un de stressé. Et donc même le psychiatre a pu s'y tromper parce qu'il a dû se dire « bon, elle doit être sous pression à cause des études, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit spécialement anxieuse ». Et c'est compliqué parfois pour moi de montrer à quel point je suis stressée, anxieuse, parce que je veux garder la face en fait. Et donc j'ai pris les antidépresseurs et j'ai été suivie par une psychologue que je vois encore aujourd'hui pour traiter la dépression et les crises d'angoisse aussi, mais sans avoir le mot trouble anxieux généralisé derrière ça, parce que le suivi psychologique c'est pas forcément lié à un diagnostic, c'est assez personnel et on est pris comme un individu. Et au bout d'un moment j'ai fait part à ma psychologue de mon inquiétude par rapport à ma santé mentale, en lui disant là j'ai l'impression de replonger, de faire plus de crises, d'être de nouveau en dépression, j'ai peur, etc. Et c'est elle qui m'a dit trouve un psychiatre pour peut-être avoir un diagnostic précis. Et c'est là qu'a commencé la quête du psychiatre, qui a mis plusieurs mois, parce qu'en fait je voulais pas revoir mon ancien psychiatre, parce que justement avec lui j'avais pas réussi à m'ouvrir assez, j'arrivais pas à être naturelle et à lui montrer à quel point j'allais mal finalement. Et donc je cherchais un nouveau psychiatre qui soit peut-être spécialisé dans le trouble bipolaire, borderline ou autre. Et donc j'ai cherché et j'ai vraiment eu du mal parce que en ce moment, après le confinement, tous les psychiatres de Lyon sont complets. Ils prennent pas de nouveaux patients ou alors ils n'ont pas de disponibilité avant des mois et des mois. Et moi j'allais de plus en plus mal, je suis passée vraiment par une période très difficile où donc je suis retombée en dépression. Et comme ça n'allait pas du tout, un jour où les crises d'angoisse devenaient insupportables à vivre, je suis allée chez mon médecin généraliste en lui expliquant que ça allait pas du tout et que je voulais des anxiolytiques. Et donc il m'a redonné des anxiolytiques. Et après, les mois ont encore passé. Et après, j'allais de nouveau encore très mal. Donc là, je suis retournée encore chez mon médecin généraliste et je lui ai dit « les anxiolytiques ne suffisent pas, j'ai besoin de voir un psychiatre vraiment ». Et comme il a pris la mesure de ma détresse, il a cherché dans sa propre base de données si jamais il pouvait me trouver un rendez-vous chez un psychiatre qu'il connaîtrait. Et c'est ce qu'il a fait, il a trouvé un psychiatre dans une clinique dont il avait eu quelques retours. J'étais pas forcément rassurée d'aller consulter un psychiatre dans une clinique psychiatrique parce que ça me faisait un peu peur d'y aller, etc. Mais c'était un peu ma seule solution et finalement ça m'a permis d'avoir un diagnostic par un professionnel qui a l'habitude de poser des diagnostics assez rapidement et d'être en contact avec des gens qui sont en situation un peu d'urgence. Donc c'est pas quelqu'un qui a été beaucoup dans le suivi, dans l'écoute pendant longtemps, etc. Il était vraiment là en tant que professionnel de santé pour dire voilà, là c'est ce que je pressens, voilà le médicament que je vous conseille et on se revoit dans un mois pour voir si le médicament fonctionne. Donc moi, ce que je préconise si jamais il y a des gens qui cherchent à avoir des diagnostics, c'est d'avoir derrière le psychiatre une psychologue, hein, ou une psychologue qui soit un petit peu le relais. Parce que juste après ce rendez-vous chez le psychiatre, j'avais rendez-vous chez ma psychologue et j'ai pu faire une sorte de débrief. Et avec elle, on a parlé de ce que ça voulait dire d'avoir le trouble anxieux généralisé. Elle m'a dit, en effet, j'avais peut-être pressenti certaines choses, mais je voulais pas moi poser le diagnostic. Donc on a pu en reparler. Et avec la psychologue, on apprivoise en fait le trouble. Le psychiatre, en fait, certains font un suivi un peu plus détaillé, un peu plus long, mais la plupart des psychiatres, surtout en ce moment, sont débordés et ils n'ont pas vraiment le temps de prendre des pincettes, entre guillemets. Et le psychologue, lui, il est là vraiment pour assurer le suivi individuel et rassurer par rapport au diagnostic. Et donc voilà.
Et donc, tu disais là qu'en mars 2020, c'est à ce moment-là que tu as fait des grosses crises d'angoisse et que ça t'a poussé en fait à aller consulter un premier professionnel. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi pas avant? Parce que de ce que j'ai compris, tes crises ont commencé avant. Qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là à aller voir quelqu'un?
En prépa, j'avais eu mes premières crises d'angoisse et j'étais allée voir une psychologue dans le but concret de gérer mes crises d'angoisse. C'était pas du tout en pensant que j'avais un problème. J'ai juste dit, je fais des crises d'angoisse, j'ai peur que ça m'empêche de travailler, de passer les concours et d'avoir l'ENS. Donc j'ai besoin d'exercices. Et en effet, on a travaillé sur la respiration, on a fait des exercices. J'avais l'impression que c'était quand même quelque chose que je contrôlais, que je maîtrisais. Et en fait, en arrivant à l'ENS, c'est là que j'ai vécu une dépression. Parce que pendant la prépa, j'étais sous pression pendant 3 ans où je me suis vraiment mis la pression pour travailler, où les profs m'ont mis la pression, et où justement j'ai intériorisé toute l'anxiété que je ressentais. Et quand je suis arrivée à l'ENS, j'avais plus aucune pression sur mes épaules parce que j'avais réussi, et on n'avait plus trop de travail, en tout cas les profs ne nous mettaient pas forcément la pression sur le travail. Et donc ça a fait comme un ballon qui se dégonfle en quelque sorte, et je me suis un peu effondrée. Et là, les crises d'angoisse, c'était différent. C'était pas seulement des crises d'angoisse où on sent qu'on est stressé en ce moment parce qu'on a beaucoup de travail, donc de temps en temps, on perd un peu pied. Là, c'était autre chose. C'était vraiment des crises d'angoisse qui avaient une teinte de dépression au sens que j'avais un véritable désespoir qui s'ajoutait. Je pleurais et je faisais la crise d'angoisse en même temps. J'avais peur de quelque chose, mais je savais pas quoi. Et c'était vraiment une détresse. La différence, c'était qu'en prépa, j'avais une cause à l'angoisse. Je me disais, bon, je sais pourquoi je suis en train de stresser, c'est simplement parce que j'ai trop de travail, ça ira mieux quand j'aurai eu le concours, si je l'ai. Et là, j'avais pas de cause. Et mes amis autour de moi disaient, mais pourquoi t'es comme ça? Pourquoi ça va pas? Dis-nous une raison. Et moi, j'avais pas de raison. Et du coup, je m'enfermais encore plus. Quand j'avais des crises d'angoisse, je me sentais coupable d'en avoir parce que tout allait bien dans ma vie. Et c'est pour ça que, au bout d'un moment, j'ai fait une crise d'angoisse très importante où j'étais simplement en train de manger avec mes amis tranquillement, il n'y avait aucun problème. Et d'un seul coup, l'angoisse vraiment m'est tombée dessus et j'ai dû aller aux urgences parce que j'arrivais plus à respirer et mes amis ont pensé que j'avais mangé quelque chose et que j'étais en train de faire une allergie ou quelque chose comme ça. Et donc, à partir de là, comme tous mes amis étaient très inquiets et que j'avais révélé au grand jour que je faisais des crises d'angoisse, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça devient handicapant parce que je pouvais même pas. Ça pouvait m'arriver n'importe quand, y compris quand tout allait bien et que j'étais avec mes amis. Je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est débloqué dans mon cerveau parce que là, il n'y a plus de cause, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'aille voir un professionnel.
Et donc là, tu viens de parler de ce moment où tu as fait cette grosse crise d'angoisse et tu dis que ça a révélé un peu au grand jour que tu faisais des crises d'angoisse et que voilà, que l'angoisse était quelque chose de très présent chez toi. Est-ce que entre-temps, tu as pu en parler un peu plus avec tes amis, avec tes proches et est-ce que tu en as encore plus parlé une fois que tu as eu ce diagnostic il y a une semaine?
J'en parle souvent avec mes amis, souvent sur le ton de la dérision en fait. Je fais beaucoup d'humour sur le fait que je suis quelqu'un d'anxieux, de stressé. Et souvent, les gens prennent pas forcément ça au sérieux, justement parce que moi j'en parle avec humour et parce que je renvoie, comme j'ai dit, une image assez calme et de maîtrise de moi-même. Donc les gens pensent que quand je dis anxieuse, quand je dis dépression, c'est quelque chose de léger. Et en fait, ceux à qui je peux m'ouvrir, c'est ceux devant qui j'ai déjà fait des crises d'angoisse. Donc mes amis qui étaient là à ce repas, aussi ma coloc qui m'avait accompagnée aux urgences. Eux savent l'ampleur que prend l'angoisse dans ma vie et à quel point ça pose problème. Et souvent, les autres personnes, mes autres amis qui sont un peu moins proches de moi, savent que je prends des antidépresseurs, savent que je prends des anxiolytiques quand j'en ai besoin. Donc, ils savent que j'ai un problème par rapport à l'angoisse, mais ils ne se rendent pas compte d'à quel point c'est un handicap, justement. Ils pensent que c'est un trouble, mais pas quelque chose d'handicapant. Et alors que d'autres amis vont savoir que c'est quelque chose qui peut m'arriver à n'importe quel moment. Et du coup, ils vont être plus compréhensifs. Si par exemple, je dois annuler quelque chose, annuler un plan, parce que j'ai eu une crise d'angoisse ou parce que d'un seul coup, je me sens vraiment pas bien, mes amis très proches, ils vont être plus compréhensifs. Par contre, ça pose problème souvent parce que je me sens très coupable d'avoir ce problème, ce trouble, ce handicap. Parce que j'ai l'impression d'être un poids pour mes amis, y compris ceux à qui j'en ai parlé et qui me disent que je ne suis pas un poids pour eux, mais pour moi c'est difficile parce que j'ai l'impression en fait de freiner. Par exemple, quand on est parti en vacances ensemble et que j'ai fait cette crise d'angoisse pendant le repas, ça a gâché l'après-midi parce que voilà, il a fallu m'emmener aux urgences et après j'avais pris un anxiolytique, j'étais fatiguée et on est allé au cinéma au lieu de sortir comme on voulait. Mes amis, ils ont été vraiment très compréhensifs et ils m'ont apporté des fleurs. C'est eux qui ont décidé d'aller au cinéma, ils se sont adaptés à moi. Mais moi, je me suis sentie vraiment coupable et je me suis sentie très différente d'eux parce que j'avais ce handicap qui m'empêchait de faire ce que je voulais et d'avoir autant d'énergie que je le voulais. Et du coup, parfois, je vais ne pas en parler à certaines personnes ou surtout quand je me sens pas bien, je vais beaucoup compenser. Quand je sens que j'ai pas l'énergie de faire quelque chose, mais que je suis pas en présence d'amis très proches, je vais pas faire attention à mon niveau d'énergie et je vais surcompenser le fait que j'ai une baisse d'énergie et que là j'aurai besoin de me reposer. Et donc après, souvent je vais passer une après-midi normale, personne va s'apercevoir de rien et quand je vais rentrer chez moi, je vais m'effondrer. Je vais me mettre à pleurer, je vais avoir une crise d'angoisse parce que j'ai pas écouté l'état de mon corps actuel. Et c'est là que j'ai des courbatures, c'est là que j'ai mal à la mâchoire. En fait, mon corps m'envoie des signaux pour dire que là, il est en état d'angoisse, là, il est en état d'alerte aujourd'hui. Et quand c'est trop, il faut que je m'arrête et il faut que je me repose. Mais moi, j'écoute pas ces signaux parce que j'ai peur du regard des autres. Souvent, j'ai peur d'annuler un plan à la dernière minute, en fait. Et donc, j'en parle pas forcément autour de moi. Parce que j'ai l'impression que si j'annulais un plan pour cause que je suis fatiguée ou que je suis pas bien, anxieuse, je sais pas comment je pourrais dire ça, j'ai l'impression que les gens pourraient pas comprendre parce que tout le monde a des moments de stress, tout le monde a des moments de fatigue. Une fois j'avais vu un médecin qui m'avait dit tout le monde a des hauts et des bas. Bah c'est ça en fait, c'est que le trouble que j'ai, c'est quelque chose que tout le monde a plus ou moins vécu, mais que moi je vis à une intensité qui fait que ça devient un handicap. Et donc j'ai peur que, souvent j'ai peur de l'exprimer parce que c'est quelque chose que les autres aussi ont déjà vécu et ils ont pu avoir des problèmes comme ça. Et donc ils peuvent se dire mais elle en fait trop, elle exagère. Pourquoi avoir une crise d'angoisse c'est si grave que ça pour elle? Pourquoi elle doit aller aux urgences à cause de ça? Tout le monde a déjà fait une crise d'angoisse. Enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué d'être à la fois semblable aux autres et à la fois d'être dans l'extrême en fait.
Bon du coup tu anticipes quasiment toutes mes questions. mais justement cette question de... des remarques que des gens peuvent te faire en disant bah voilà oui tout le monde a déjà été fatigué, est-ce que c'est le médecin en question, etc. Du coup tu dirais que la différence entre être un peu anxieux de temps en temps et avoir un trouble anxieux généralisé, la différence c'est une question d'intensité?
C'est une question d'intensité et surtout c'est une question de cause, parce que comme on l'a dit au tout début dans la définition officielle du trouble anxieux généralisé, c'est que quand on a un trouble anxieux, on est anxieux pour rien. Il n'y a vraiment pas de déclencheur et que l'angoisse est toujours là. Et donc, elle peut se manifester pour n'importe quel événement, qu'il soit stressant, un peu stressant ou même pas du tout stressant. Et donc, il peut même se manifester sans qu'il y ait aucun événement. Et donc là, ça devient handicapant parce qu'on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas éviter les situations stressantes parce que le stress est toujours là. Et le corps est comme en permanence en état d'alerte. Et donc, je pense que la différence avec les personnes qui vivent de l'anxiété et les personnes qui ont un trouble anxieux généralisé, c'est les séquelles physiques aussi. Parce que si on en vient au point où le stress nous consume de l'intérieur, en ayant des raideurs musculaires, aussi ça fait des troubles intestinaux, des migraines. Moi j'ai aussi eu des problèmes dermatologiques où j'avais des plaques rouges qui étaient apparues sur mon corps et que le médecin avait identifié comme un pityriasis rosé de Gibert. Je ne sais pas si je prononce bien, mais... c'est une sorte d'irritation qui n'a pas de cause et qui disparaît d'elle-même, qu'on ne peut pas traiter, mais qui est en fait souvent liée à l'angoisse, au stress. Donc toutes ces séquelles physiques, ça montre bien que là, on est au-delà d'un simple stress qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Ça attaque le corps, en fait.
Oui, donc par rapport à l'émission où on parle globalement de handicap invisible, c'est à la fois un handicap invisible et en même temps avec des répercussions visibles, physiques.
Oui, après, c'était les plaques rouges, on ne les voyait pas. Typiquement, c'est toujours des choses... Pareil, mon problème de mâchoire, mes problèmes de tension musculaire, c'est pas des choses que les autres voient. Et d'ailleurs, c'est fait exprès, parce que c'est une somatisation. C'est vraiment l'expression « prendre sur soi ». Ça veut dire que mon corps subit l'anxiété qui m'arrive. Et moi, au lieu de gérer mon anxiété en me reposant et en faisant autre chose ou en laissant cours à mes émotions, je fais passer sur mon corps l'anxiété qui se passe dans ma tête. Et donc, je serre les dents. Vraiment, au sens propre, je serre les dents. Je me tends, je me campe sur moi-même et c'est là que j'ai tous mes problèmes physiques qui sont liés à ça.
Et donc là, avec tout ce que tu nous as décrit, moi je voudrais revenir sur l'impact que le trouble anxieux généralisé a eu sur ta scolarité, parce qu'aujourd'hui tu es étudiante et bon bah ça me paraît assez logique qu'il y ait un impact. Déjà, comme c'est quelque chose que tu as quand même depuis un certain bout de temps, même si le diagnostic est assez récent, est-ce que tu as eu l'impression que ça t'a empêché de réussir certains exercices, certains examens ?
Alors en fait, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt les études qui ont eu un impact sur ma santé mentale, parce que c'est les études qui m'ont causé ce trouble, je pense. Il y a d'autres causes, évidemment. Ma mère a un trouble anxieux généralisé, mon frère aussi. Donc c'est quand même, on va dire, une nature anxieuse que j'ai eue génétiquement, et ensuite une enfance auprès de personnes anxieuses qui m'ont rendue anxieuse. Mais c'est les études qui ont déclenché mes premières crises d'angoisse. Et c'est, comme avait dit le premier psychiatre, un burn-out lié aux études qui a déclenché ma première dépression. Voilà. À la base, j'avais déjà un tempérament anxieux. Et donc, si je m'étais écoutée, je n'aurais pas fait une prépa, je n'aurais pas fait des études qui me stressaient beaucoup. J'aurais fait d'autres études. Et donc, j'aurais plutôt été épanouie dans mes études. Et c'est le fait de me mettre de la pression et de me mettre dans un mauvais environnement qui m'a développé un trouble anxieux généralisé, parce que mon corps s'est habitué à être dans un état de stress, et au bout d'un moment, c'est devenu son système de fonctionnement. Donc je dirais que le trouble anxieux généralisé n'a pas été un handicap pour mes études du passé, puisque j'ai réussi l'ENS tout en faisant des crises d'angoisse tout le temps, pendant ma dernière année. Mais du coup, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase où j'ai pris sur moi, pendant longtemps, donc surtout pendant la dernière année, ma cube, où j'ai réussi le concours de l'ENS. Et ensuite, il y a eu la phase de dépression. Quand, arrivé à l'ENS, c'est retombé et j'ai eu ma première dépression. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et à partir de ce moment-là, le trouble anxieux généralisé s'est installé, s'est généralisé. Et là, il est devenu un handicap dans mes études parce que je suis arrivée à saturation et que je ne pouvais plus continuer à faire de la philo. Je ne pouvais plus continuer à me mettre la pression comme avant. Je pouvais même plus me concentrer, je pouvais même plus travailler, ni rien écouter, parce que j'avais trop travaillé avant, et que maintenant mon corps était dans un état tel, mon corps et mon esprit étaient comme dévastés en fait par toute cette pression que je m'étais mise. Et maintenant le trouble anxieux généralisé est un handicap, parce que j'arrive plus à écouter les cours, j'arrive plus à travailler aussi bien qu'avant, et c'est dommage parce que ça m'empêche de réussir aussi bien que je réussissais avant.
Oui, c'est la question que j'allais te poser. Tu parles de saturation, tu parles de problèmes de concentration. Donc du coup, c'est quoi ? C'est la fatigue, les tensions musculaires, etc. qui font qu'à un moment, ton cerveau ou ton corps, je ne sais pas, en a marre et il n'arrive plus à être concentré ?
Oui, c'est ça. C'est un peu comme quand on dit qu'on a trop tiré sur la corde. C'est vraiment ça. C'est que en fait, avant, je travaillais jusqu'à arriver à épuisement. Et aujourd'hui, je suis déjà à l'épuisement avant même de commencer à travailler. C'est-à-dire que maintenant, dès que je me mets à travailler, mon corps, mon cerveau a une réaction quasi viscérale en se rappelant du burn-out que j'ai fait, en quelque sorte, lié aux études de philo, à la prépa. Et donc maintenant, j'ai vraiment du mal à voir les études comme quelque chose de neutre et de dénué de toute pression. Et donc maintenant que je voudrais travailler par plaisir, parce que maintenant qu'on est à l'ENS, on n'a plus du tout de pression, on est censé trouver un sujet de mémoire qui nous intéresse, on est censé travailler plutôt par plaisir, par goût pour la recherche, maintenant j'y arrive plus, parce que j'ai pas de challenge, et que dès que je vois travail, je pense à réussir, pression, anxiété en fait. Et c'est pour ça que maintenant c'est difficile de retrouver des activités qui sont dénuées de tout stress. Et ça a été tout un challenge, surtout pendant le confinement, qui m'a finalement beaucoup aidée. Parce que pendant le confinement, je suis retournée à des activités qui n'étaient pas liées à l'anxiété. et donc qui m'ont aidé à sortir de l'anxiété. Par exemple, faire des puzzles. C'est quelque chose qui était neutre. J'étais dans terrain neutre et du coup, mon corps et mon cerveau n'avaient pas de réaction comme... c'est vraiment une réaction viscérale. Quand j'ouvre mon ordinateur, état de stress. Mon cerveau tout de suite sécrète quelque chose du stress. Je sens que mes muscles se tendent. Tout de suite, en fait, j'ai une réaction automatique de stress. Alors que quand je me mets devant un puzzle, je ne suis pas en état de stress parce qu'on ne m'a jamais mis la pression sur réussir un puzzle. Et donc, pendant le confinement, j'ai pu redécouvrir tout un aspect de moi qui était en dehors de toute pression. Et du coup, j'ai redécouvert des activités qui me plaisaient aussi, faire de la musique, faire des vidéos. Et aujourd'hui, je vais essayer de m'orienter vers ces activités qui me font plaisir plutôt que les activités qui sont à tout jamais condamnées parce que j'ai trop... mon corps maintenant est comme allergique à la philo parce que philo égale anxiété pour moi maintenant. C'est un peu un chemin condamné.
Et maintenant que tu as eu ce diagnostic, là, avec tout ce que tu racontes sur ta difficulté à faire de la philo, sur cette difficulté à se concentrer, est-ce que c'est un diagnostic que tu comptes partager potentiellement à l'administration de l'ENS pour que les professeurs et les gens de toi soient au courant et qu'il y ait potentiellement des aménagements qui soient mis en place?
Alors, je vais déjà partager parce que, en fait, quand j'étais vraiment pas bien, là, il y a quelques semaines, j'étais partie de cours... parce que j'avais une crise d'angoisse qui montait. Et j'étais allée voir l'infirmière de l'ENS, qui m'avait ensuite donné un rendez-vous avec le médecin de l'ENS et la psychologue de l'ENS. Donc toute l'équipe de santé de l'ENS est au courant de ma situation. Et j'ai aussi eu un rendez-vous avec la vice-présidente aux études de l'ENS pour la question de mon orientation en général. Et par mail, j'ai pu un petit peu lui parler de cette question de santé. Parce qu'elle, justement, il fallait que je justifie le fait que je veuille me reconvertir et arrêter la philo. Donc je lui ai dit que c'était parce que j'avais de l'anxiété liée à la philo. Et la vice-présidente a dit au début de notre entretien que tout ce qui était santé, c'était pas elle qui s'en chargeait, c'était l'équipe de santé. Et du coup, parfois, c'est un petit peu difficile, justement, de faire la part des choses entre ce qu'on doit dire et pas dire à l'administration. Parce que c'est vrai que la vice-présidente aux études, c'est pas son rôle de m'écouter sur mes problèmes de santé. Mais en même temps, c'est important, je trouve, qu'elle soit au courant. Donc, l'ENS est au courant de mon état, mais ce qui est difficile, encore une fois, c'est d'expliquer sans se sentir coupable et sans se sentir en train de faire la drama queen, en quelque sorte, à quel point l'anxiété est devenue une allergie à la philo. Parce qu'on a à l'ENS, on est quand même beaucoup à avoir des problèmes d'anxiété, à avoir des dépressions. Donc les profs ont l'habitude d'entendre ça. Et finalement, parfois, ils ne prennent pas la mesure à quel point l'anxiété peut devenir un véritable handicap qui me bloque le chemin de la philo. Et que maintenant, je leur expliquais que je ne pouvais pas passer le CAPES de philo, parce qu'ils veulent que je passe le CAPES de philo pour avoir un plan un peu sûr. Je leur expliquais que même le CAPES de philo, qui est moins difficile que l'agrégation, je pouvais pas le passer parce que passer un concours de philo, c'était devenu quelque chose qui me procurait trop d'anxiété et que rien que l'idée de l'envisager pouvait déclencher une crise d'angoisse. Et que voilà, maintenant c'était quelque chose, c'était un environnement auquel je voulais plus me soumettre parce que je savais que j'avais un trouble anxieux. Et donc maintenant, je veux me mettre dans des environnements qui vont m'aider à ne plus être anxieuse, quoi. Et en tout cas, à réduire ce trouble anxieux au silence, on va dire.
Et donc là, tu parles d'allergie à la philo. Et ça tombe bien, ça correspond à la question que j'allais te poser après. Cette question de est-ce que ça t'a fait renoncer à certains rêves? Et du coup, là, si tu renonces à la philo, qu'est-ce que tu vas faire?
Je dirais pas que ça fait renoncer à un rêve, parce que justement, comme j'ai expliqué, cette anxiété est apparue parce que je me suis mis la pression et parce que des personnes m'ont mis la pression pour réussir l'ENS. Et l'ENS n'était pas un rêve en soi. J'étais une bonne élève et on m'a mis la pression.
Quand je dis rêve, c'est pas le but aussi. Hein.
Oui, d'accord. Donc ça m'a fait renoncer à l'agrégation de philo, par exemple, parce que moi, je m'étais dit que j'allais passer l'agrégation et que j'allais... j'avais pas forcément réfléchi. Je m'étais dit que j'allais suivre le chemin qui était le plus prestigieux, entre guillemets. Et donc, me confronter à mes problèmes de santé mentale... m'a fait me rendre compte que j'allais pas passer l'agrégation de philo parce que ça devenait trop difficile pour moi et que si j'allais passer l'agrégation, j'allais complètement perdre pied. C'était inenvisageable. Mais finalement, c'est un mal pour un bien parce que c'est pas vraiment ce que je voulais faire au fond de moi. Même, comme j'ai déjà dit, faire l'ENS, faire la prépa, faire de la philo, c'était pas ce que je voulais faire au fond de moi. Et si je m'étais écoutée à l'époque où j'avais 18 ans, je me serais pas lancée dans ces études-là, j'aurais fait autre chose, peut-être du journalisme, peut-être quelque chose de plus créatif, qui aujourd'hui sont des carrières qui me tentent plus et vers lesquelles j'essaye de me diriger avec difficulté, parce que maintenant je suis un peu déjà engagée dans la philo et c'est compliqué de changer. Mais je vais le faire. Donc en fait, c'est compliqué parce que ce trouble anxieux généralisé, c'est un symptôme d'une mauvaise orientation dans mes études. Et donc, comme tout symptôme, il a quelque chose de bon, parce que quand on se rend compte que le symptôme aide à se rendre compte qu'il y a un problème, c'est comme quand on a de la fièvre, c'est quand même bien qu'on puisse avoir de la fièvre parce que ça aide à comprendre qu'il y a une maladie, limite ça aide à guérir, parce que ça aide à... Voilà, là pour mon cas, le fait d'avoir un trouble anxieux généralisé m'a fait me rendre compte que j'étais pas là où je voulais être, que j'étais pas en train de faire les bonnes études puisque ça me procurait autant d'angoisse et que ça me correspondait pas. Et donc j'allais me diriger vers des métiers plus créatifs parce que c'était ça que je voulais vraiment. Donc c'est pour ça aussi que je suis un peu, j'ai un peu fait la paix avec le fait d'avoir des crises d'angoisse et d'être comme ça, parce que je me suis rendu compte que c'était pas de ma faute et que j'étais dans le mauvais environnement qui m'avait développé des réactions d'anxiété de manière généralisée, mais que si je trouvais le bon environnement qui me plaisait, avec les études qui me plaisent, le métier qui me plaît, bah, les crises d'angoisse allaient redevenir en sourdine. Et elle reviendrait seulement si de nouveau je suis dans un endroit qui n'est pas adapté. Et maintenant, je ressens l'anxiété comme une alliée qui me fait un signal d'alerte quand je suis dans la mauvaise situation pour moi, en quelque sorte. Et c'est comme si j'avais une alarme qui avait sonné parce que j'avais choisi les mauvaises études et que c'était pas quelque chose qui m'épanouissait. Et donc... c'est difficile à supporter parce que c'est une alarme très désagréable qui fait passer par des symptômes pas du tout agréables et qui, accessoirement, m'a fait avoir une dépression. Donc, c'est pas très agréable. Mais en même temps, sans elle, j'aurais continué dans des études qui m'épanouissaient pas et j'aurais simplement été en dépression, en fait, pendant des années et des années sans jamais m'apercevoir qu'il y avait un problème. Et là, l'angoisse, c'est quelque chose de plus fort que la dépression, qui la dépression peut être un petit peu... on s'en aperçoit pas, on est en dépression, on se rend pas compte que ça va pas très bien. L'angoisse, on s'en rend compte, on peut pas passer à côté. C'est un signal d'alerte qui peut t'amener aux urgences. Donc après, tu te dis, bon, là, j'ai un problème, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai l'impression que l'angoisse, c'est quelque chose qui m'a un peu secouée en même temps. Et donc finalement, je sais plus quelle était la question de départ. Mais tout ça pour dire que je regrette pas d'avoir ce trouble. Parce que justement, comme je disais, maintenant il fait vraiment partie de moi et il me guide un petit peu sur quels sont les environnements que je dois choisir ou fuir. Et je sais maintenant ce qui me correspond et ce qui ne correspond pas.
Donc là, tu parles de l'anxiété comme une alliée, comme un signal d'alarme. Outre le fait que, comme tu l'as dit, c'est un symptôme qui te permet de te rendre compte que tu n'es pas forcément dans le bon environnement, est-ce qu'il y a d'autres choses positives que ça t'a apporté? Je ne sais pas. Le premier épisode là, qui est sorti avec Léna, elle disait que la dépression, ça lui a apporté une sensibilité au beau. Ça peut être une plus grande empathie, une ouverture d'esprit. Est-ce que ça t'a apporté des choses positives, en plus de tout ce que tu as déjà dit?
Alors le fait d'être anxieux, je pense que ça m'a apporté de bien faire les choses parce que pour moi l'anxiété ça se manifeste par une culpabilité permanente. Enfin, quand je disais anxiété permanente, c'est culpabilité permanente. Ça veut dire que j'ai tout le temps peur de mal faire, de décevoir les gens, de mal gérer ce que je suis en train de faire. Donc par conséquent, pour calmer mon anxiété, ce que je fais c'est que je fais tout très bien. Ça veut dire que j'ai très bien travaillé au point de réussir l'ENS. J'ai fait plein de projets. Quand je fais quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Quand je prends un engagement, je ne veux surtout pas décevoir les gens et je le fais. Donc, d'un côté, l'anxiété m'a permis d'être une bonne élève, de réussir l'ENS, de mener à bien plusieurs projets. Mais bon, est-ce qu'on peut dire que c'est une qualité? C'est comme quand on dit dans les entretiens d'embauche que notre qualité, c'est le perfectionnisme. Ben, d'un côté, j'aimerais bien être un peu plus chill, on va dire, et pouvoir dire que là, j'ai pas envie de mener ce projet jusqu'au bout. Là, je m'en fiche si je déçois ces personnes, je m'écoute. Donc, en fait, ça m'a pas apporté quelque chose de très positif parce que c'est une angoisse permanente vis-à-vis du regard des autres. Et même si pour les autres, c'est positif, les profs, eux, ils m'ont félicité d'avoir réussi l'ENS et eux, ils avaient l'impression que tout allait bien. bah finalement, c'était pas si positif que ça.
Et enfin, est-ce que tu aurais une recommandation d'œuvres, que ce soit littéraire, filmographique, musicale, un peu tout ce que tu veux, une ou des œuvres qui t'ont aidé, qui t'ont permis de mieux accepter ta différence, ou juste que tu aimerais recommander parce que tu les aimes bien?
Alors, j'aimerais bien parler de quelque chose qui n'est pas vraiment une œuvre à proprement parler, mais quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidée et qui m'aide à accepter ma différence aussi, parce que c'est un peu bizarre d'aimer ça. C'est l'ASMR. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment sauvé mes nuits, parce que j'en écoute presque tous les soirs avant de m'endormir. Donc, l'ASMR, qu'est-ce que c'est? C'est des vidéos sur YouTube, essentiellement, avec des sons ou des visuels qui provoquent dans le cerveau une réaction de détente. Donc c'est des sons, souvent des chuchotements, des petits tapotements ou des petits bruits de pluie par exemple, ce qui me relaxe le plus. Et ça provoque cette espèce de petit frisson derrière la nuque. Et comme je disais que mon corps et mon cerveau étaient en permanence dans un système d'alerte et de faire monter le cœur, de faire monter le stress, l'adrénaline, l'ASMR est un moyen rapide et efficace de tout de suite faire redescendre. Et donc ça m'est déjà arrivé, quand j'avais une crise d'angoisse, de mettre une vidéo d'ASMR. Mais parfois ça marche pas, si le système est trop en alerte, ça marche pas. Mais sinon, en termes de prévention, une vidéo d'ASMR par jour m'aide presque aussi efficacement qu'un anxiolytique. Les anxiolytiques, je les garde pour les crises en fait, pour les moments où vraiment il faut une aide chimique. Mais sur le long terme, l'ASMR, c'est vraiment des vidéos qui sont quand même artistiques, parce qu'il y a quand même une part de création, de mise en scène. Souvent, les vidéos qui me relaxent le plus, c'est des vidéos qu'on appelle des roleplays, parce que c'est la fille, souvent c'est des filles qui font les ASMR, font semblant qu'elles sont une vendeuse de vêtements, qu'elles sont une caissière, enfin, ça peut être un docteur aussi. Et donc, il y a toute une mise en scène, il y a tout un univers qui est créé, qui ensuite... que j'ai plaisir à retrouver et qui me fait comme une petite bulle de sécurité et qui me permet de m'endormir, parce que je faisais aussi beaucoup d'insomnie à un moment. Et donc l'ASMR, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée. Malheureusement, tout le monde n'est pas réceptif à l'ASMR. Et sinon, si j'avais une autre recommandation un peu plus pour tout le monde, ça serait un podcast qui m'aide aussi, que j'écoute parfois pour m'endormir ou tout simplement pour me détendre, qui s'appelle « Laisse-moi kiffer ». Qui est fait par le magazine féministe Mademoiselle, qui est assez connu, un magazine en ligne. Et donc, une fois par semaine, elles sortent un podcast qui s'appelle Laisse-moi kiffer, qui dure 1h, 1h30, où chacun des chroniqueurs dit quel est son kiff de la semaine. Et ça peut être des choses culturelles, des choses de la vie de tous les jours, n'importe quoi. Et ce podcast m'a beaucoup aidée, parce que justement, ça m'a permis de me rendre compte de ce côté... Ça m'a permis de me rendre compte que le plus important, c'était d'avoir des kiffs dans la semaine. Je ne sais pas comment expliquer, mais justement, l'anxiété fait que je suis tout le temps dans un schéma de bien faire, de faire de mon mieux, de ne pas décevoir. Et surtout, dans la journée, je pense beaucoup au fait que si j'en fais trop, je vais faire une crise d'angoisse. Donc, tout est lié sur mes angoisses. Bien faire... en respectant ma santé pour essayer de ne pas avoir de crise d'angoisse. Donc en fait, je suis tout le temps dans un tunnel pendant la journée. Je suis tout le temps à cheval entre l'angoisse et la suractivité, la dépression. Enfin, c'est compliqué. Et du coup, c'est important de me rappeler au quotidien que le plus important, c'est qu'au moins dans la journée, j'ai eu un moment où je prenais du plaisir à ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est quelque chose que j'oublie tout le temps et que ce podcast m'aide à me rappeler. Et c'est finalement par là que j'ai trouvé ma voie de sortie pour essayer de guérir de la dépression et de sortir du système d'anxiété. C'était de trouver des choses qui me procuraient du pur plaisir. Comme je disais, l'exemple du puzzle, mais ça peut être jouer de la musique, c'est aussi un très bon exemple. C'est quelque chose où il n'y a plus du tout d'anxiété, parce qu'il n'y a plus de notion de réussite, de déception. Il n'y a plus de notion de bien ou mal faire. La musique, ça peut être un petit peu quand même cette notion, mais le puzzle, c'est vraiment très simple, il n'y a aucune prise de tête. Et ça, c'est retourner dans un schéma du plaisir, du réconfort. Là, ils appellent ça le kiff, mais voilà, c'est pareil pour l'ASMR. C'est aller dans un autre espace que l'espace de l'angoisse, à travers les podcasts, à travers l'ASMR, à travers les livres, la musique. Il y a plein de solutions pour sortir Et vraiment, quand je me mets dans, quand j'écoute le podcast ou quand j'écoute une vidéo ASMR, j'ai l'impression de faire un pas de côté et d'aller dans un autre espace que mon espace d'angoisse où j'évolue dans la vie de tous les jours. Et mon but à terme, c'est de laisser l'espace de l'angoisse de côté et d'aller vivre ailleurs, en quelque sorte, d'aller vivre dans mon espace de bien-être et de plaisir que je me serais construit grâce à ma psy. On fait beaucoup de l'EMDR. Donc c'est une technique pour essayer de soigner des traumatismes et des souvenirs qui sont difficiles et qui peuvent provoquer de l'anxiété. Et dans l'EMDR, il y a une technique qui consiste à s'imaginer un safe space, donc en s'imaginant tout un univers, surtout un endroit, en plaçant plein de choses qui nous réconfortent. Et donc cette technique, c'est un bon exemple de mon but dans la vie, c'est-à-dire de me construire une vie sécurisante, sécurisée, avec des personnes ressources, des activités ressources, un métier qui me fait du bien. Et du coup, non pas de guérir de l'anxiété, mais de vivre ailleurs, de plus vivre avec l'anxiété au quotidien.
Merci beaucoup Justine pour avoir répondu à mes questions. Et on espère que peut-être que les personnes qui écouteront ce podcast, ça fera partie de leur kiff de la semaine. Chers auditeurs et auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'était Indifférence, l'émission consacrée au handicap invisible, diffusée sur Transistor et produite par Marie Brunner.